Des sous et des amours. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui est Jean-Marie Arribet, professeur d'économie à Bordeaux et membre du conseil scientifique d'Attac. Là, le sujet était de taille, les retraites. 25 minutes de dialogue enregistré avec Jean-Marie Arribet, 25 minutes pour entendre enfin un discours différent sur ce sujet. Alors, autant vous le dire tout de suite, aujourd'hui, pas de musique. C'est que la situation des retraites allait être catastrophique, c'est du moins ce que j'avais compris, à très très brève échéance. On assisterait à une explosion démographique inverse, c'est-à-dire que la génération des enfants du baby-boom arriverait rapidement à la retraite, et il n'y allait pas y avoir d'actifs, assez d'actifs pour payer les retraites. Voilà, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, mais est-ce que j'avais bien compris? C'est ce que j'allais demander à Jean-Marie Arribet.
Le problème démographique ne se résume pas à cela. Ce n'est pas simplement l'arrivée en âge de la retraite de la génération du baby-boom, née après la guerre, c'est deux autres phénomènes, en plus de celui-là. C'est d'une part le ralentissement de la fécondité dans la plupart des pays anciennement industrialisés, dont la France partie, et deuxièmement, c'est l'allongement de l'espérance de vie, qui est un phénomène indépendant de la classe nombreuse qui est née juste après la guerre. Donc ces trois phénomènes se conjuguent là. Le phénomène baby-boom est un phénomène purement passager, temporaire. En revanche, les deux autres phénomènes sont sans doute beaucoup plus durables. Le rétrécissement de la fécondité, la diminuité, et à l'autre bout, l'allongement de l'espérance de vie.
Et donc il y a un réel problème.
Alors, il y a une transformation démographique indéniable. Donc, il va y avoir une question à se poser sur le financement des futures retraites. Mais, Eben a considéré, en plus de cela, d'une part, il faut comparer l'évolution de la démographie avec l'évolution prévisible de l'économie, pour savoir si nous souffrirons d'une insuffisance de ressources ou pas. Et ce problème-là est extrêmement important, et malheureusement c'est celui qui est le plus souvent omis dans le débat public et qui est occulté dans beaucoup des rapports officiels qui sont produits année après année sur cette question-là.
Justement, je ne vois pas trop quel est le lien entre la santé économique du pays et la possibilité de financer ou pas les retraites.
Mais prenons un exemple. À la sortie de la guerre, il y avait la population française qui était encore pratiquement majoritairement installé dans les campagnes. Un agriculteur, à cette époque-là, nourrissait 2, 3, 4 Français au maximum. Aujourd'hui, un agriculteur nourrit 10 fois plus de personnes, 30, 40, 50. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la productivité du travail agricole a considérablement augmenté. Peut-être d'ailleurs avec des conséquences d'ordre environnemental, écologique, catastrophique. Avec des conséquences aussi sociales et catastrophiques, parce que ça veut dire qu'il y a un exode rural massif, incontrôlé, qui se produit. Mais toujours est-il que la productivité du travail agricole a bien plus que compensé la diminution du nombre d'actifs agricoles et la diminution de la proportion d'actifs agricoles dans la population. Donc pour savoir si nous souffrirons ou pas d'une insuffisance de ressources pour nourrir tout le monde, pour soigner tout le monde, pour éduquer tout le monde, pour transporter tout le monde, il faut donc toujours comparer l'évolution démographique et l'évolution économique.
Justement, les prévisions sont peut-être pas idéales dans ce domaine.
Eh bien, voyons donc les prévisions des deux côtés. Sur le côté des cycles, les démographes prévoient que d'ici 2040, c'est-à-dire grosso modo dans 40 ans, la proportion d'actifs pour inactifs, c'est-à-dire de gens qui travaillent ou bien qui sont en capacité de travailler, et puis ceux qui sont inactifs parce que soit ils sont jeunes, soit ils sont âgés, donc il y a les inactifs au debout de la pyramide des âges. Les démographes prévoient qu'on va passer d'environ un actif pour 1,6 inactifs aujourd'hui, c'est la proportion qui existe en France en ce moment, en 2000, 2001, 2002. On va passer de cette proportion 1 pour 1,6 à 1 pour 2. C'est-à-dire un actif pour deux inactifs. Donc il va y avoir un accroissement du nombre d'inactifs par rapport aux actifs. Donc de 1,6, ça va passer 1,6 à 2. Donc ça fait une augmentation de 25%. Cette augmentation de 25% va s'étaler sur 40 ans. Donc en 40 ans, il va y avoir progressivement, au bout des 40 ans, il y aura 25% d'actifs par actif qu'il n'y en a aujourd'hui. Bon. Donc la question décisive à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que dans le même temps, la productivité des actifs va être suffisante pour compenser cet alourdissement démographique.
C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils produisent de plus en plus de richesses.
Alors ça veut dire qu'effectivement, pour que nous ne souffrions, pour que nous ne souffrons pas dans l'avenir d'insuffisance de richesses, il faut que les actifs produisent toujours un petit peu plus pour compenser cette augmentation de la proportion inactive. Donc, reprenons la prévision démographique. Donc, 25% de plus en 40 ans. Si on fait un calcul de moyenne annuelle, si on répartit donc sur les 40 ans ces 25%, ça fait à peu près une augmentation d'un petit peu plus de 0,5% en moyenne par an. Exactement 0,56. 0,56% de plus d'inactifs par rapport aux actifs chaque année en moyenne pendant 40 ans. Et la productivité, globale de l'économie, donc la productivité des actifs, progresse toujours beaucoup plus que 0,5% par an. Au minimum, enfin, il n'y a pas d'exemple historique dans le dernier demi-siècle où la productivité n'ait pas augmenté d'au moins 1,5% par an, voire 2, voire parfois à certaines époques beaucoup plus. Mais dans la phase actuelle, cette augmentation de la productivité du travail n'excède pas 1,5% à 2%.
Donc c'est ces fameux chiffres de la croissance ou c'est...
Alors non, ça c'est non. Pas les chiffres de la croissance, c'est les chiffres de la croissance de la productivité. Ce qu'on appelle la croissance économique, c'est très voisin, mais sur les deux notions sont très voisines, mais ne sont pas tout à fait identiques. La première, la croissance qu'on appelle économique, c'est la croissance du produit intérieur brut, ce fameux PIB qui est la somme de tout ce qu'on a produit en une année dans une économie donnée. La croissance de la productivité, c'est cette croissance de la production, ce fameux PIB, rapportée au nombre d'actifs ou au nombre d'heures travaillées, selon le dénominateur que l'on prend. Et c'est ce dernier rapport, croissance de la production par rapport aux actifs, qui est absolument absolument important d'étudier et de comparer à l'évolution démographique. Alors reste une question, pourquoi diable faut-il toujours comparer ces deux éléments? Eh bien parce que, et c'est ça, c'est là que réside en grande partie le mensonge que l'on trouve dans la plupart des rapports, dans la plupart des discours officiels, c'est que ce sont toujours les actifs qui font vivre par leur activité, par définition, les inactifs, que ce soit les jeunes, les enfants, ceux qui sont en formation, ou les personnes âgées. Donc ce sont toujours les actifs qui font vivre les inactifs par leur travail productif. Et ceci, quel que soit le système. Et l'astuce mensongère de la plupart des rapports officiels consiste à nous dire que le système de financement des retraites qui existe aujourd'hui, que l'on appelle le système par répartition, c'est-à-dire qui est financé par prélèvement sous forme de cotisations sociales, le plus souvent assises sur les salaires, en tout cas jusqu'à présent c'était le plus souvent assis sur les salaires, qui sont immédiatement réutilisés pour verser les pensions et les retraites aux retraités. Et implicitement, il est sous-entendu que dans un système autre, que l'on appelle par capitalisation, où chacun a l'impression en souscrivant à la compagnie d'assurance de son choix qu'il va cotiser pour sa propre retraite, que c'est lui-même qui se finance sa propre retraite, eh bien c'est faux. Parce que même dans ce cas-là, ce sont les actifs du moment qui financeront la retraite à laquelle j'ai souscrit aujourd'hui. Autrement dit, si dans 10 ans, dans 20 ans, quand je serai à la retraite, s'il n'y a pas d'actifs pour fabriquer le blé qui me nourrira, pour procurer des soins de médecin quand je serai malade, pour me transporter quand je voudrais voyager, ou pour éduquer mes petits-enfants qui iront à l'école, s'il n'y a pas tous ces actifs à ce moment-là, j'aurai beau souscrire à tous les plans de retraite mirifiques dans n'importe quel fonds de pension, s'il n'y a pas cette activité productive, j'aurai souscrit en blanc, j'aurai souscrit sur du vent. Et la souscription à un plan de retraite par capitalisation ne vaut que tant qu'il y a des actifs qui travaillent. Donc dans les deux systèmes, soit l'actuel, que l'on appelle par répartition, ou soit son hypothétique remplaçant le système par capitalisation, ça ne change rien à cette donnée de base. Et c'est ce qui explique qu'il faut absolument toujours comparer l'évolution démographique à l'évolution de la production et de la productivité. Parce que un système par capitalisation, il va se trouver lui aussi confronté au vieillissement démographique, de la même manière qu'un système par répartition. Il ne faut pas croire que des fonds de pension ajoutent un grain de blé de plus pour nous nourrir, il ne faut pas croire qu'ils ajoutent un soin de médecin de plus, il ne faut pas croire qu'ils ajoutent une leçon de grammaire dans les écoles primaires de plus pour les enfants, il ne faut pas croire qu'ils les assurent un kilomètre de transport de plus pour ceux qui veulent voyager. Donc, dans les deux cas, un système de retraite, par répartition ou par capitalisation, se trouve confronté à cette réalité objective qui est l'évolution démographique.
La conversation continue et je m'étonne auprès de lui que ce qu'il me dit n'est jamais repris dans la réflexion sur les retraites. Voici sa réponse.
Il est effectivement assez curieux de constater que le raisonnement que j'ai tenu là depuis quelques minutes, à savoir que le point important était de comparer l'évolution démographique à l'évolution économique, il est curieux de constater que ce raisonnement n'est pas repris par la plupart des rapports, alors que ce n'est qu'un raisonnement de base en économie et sur lequel pratiquement tout le monde serait d'accord. Alors pourquoi est-il fait silence sur ce point la plupart du temps? Eh bien parce que, enfin je propose l'hypothèse suivante pour expliquer ce paradoxe, cette curiosité. Tous les experts, tous les porte-paroles des groupes sociaux les plus qui tiennent le haut du pavé font un pari, qui bien sûr n'est pas mis sur la place publique, mais ce pari est facilement repérable. Le pari est que les fameux gains de productivité, dont j'ai dit qu'ils étaient la clé de la solution du problème de financement des futures retraites, ils font le pari que ces gains de productivité vont, comme pendant les 20 ou 25 dernières années, continuer d'être accaparés par les détenteurs de capitaux. Autrement dit, la répartition inéquitable des gains de productivité qui a prévalu depuis 20 ou 25 ans parce qu'on a eu des politiques d'austérité salariale extrêmement fortes, parce que le chômage a laminé la masse salariale proportionnellement à l'augmentation du PIB, ils font le pari que cette détérioration de la répartition au détriment du travail et en faveur des détenteurs de capitaux perdurera. Autrement dit, pour le dire de manière simple et un peu vulgaire, ils font le pari que les gains de productivité passeront sous le nez des salariés et des anciens salariés que sont les retraités. Alors, si c'est le cas, si effectivement tous les gains de productivité ou la quasi-totalité des gains de productivité sont appropriés par les revenus financiers, c'est-à-dire par les détenteurs de capitaux, alors on va avoir effectivement un problème de financement des systèmes de retraite, tout comme on va avoir un problème pour financer toutes les dépenses sociales et toute la protection sociale. Donc, mais ce n'est qu'à cette condition que le problème de financement de la protection sociale va se poser. Si les gains de productivité sont équitablement répartis, en tout cas beaucoup plus équitablement qu'ils ne le sont aujourd'hui et qu'ils n'ont été pendant les 20 dernières années, alors ce problème ne se pose pas. Et donc, ce pari implicite, si simulait justement cette question-là, si effectivement la masse salariale ne progresse pas au rythme de la productivité, on va avoir un problème, puisque les cotisations sociales sont assises sur cette masse salariale. Et effectivement, le gonflement des tranches d'âge élevé, eh bien, il va se poser la question de comment financer les retraites. C'est pour ça que les projets des rapports officiels, tous les projets du patronat, le MEDEF fait une offensive extraordinaire sur cette question-là, consistant à allonger la durée de cotisation, c'est-à-dire en la portant non seulement à 40 ans, mais à 42 ans et demi, puis à 45 ans, et puis pourquoi pas davantage, après tout, hein, pourquoi s'arrêter à 45 ce projet-là, en fait, vise à reporter sur une masse salariale considérée comme intangible dans le temps, en dépit des gains de productivité, l'alourdissement démographique. portant sur une masse salariale qui ne bougerait pas malgré l'augmentation des gains de productivité, alors effectivement, comme il y a plus de personnes inactives à prendre, eh bien ça rétrécit la portion de gâteau pour chacun. Mais ce problème ne se posera que si on ne résout pas la question de la partition. Donc, pour résumer le tout, nous ne sommes pas, n'avons pas affaire à une question d'insuffisance de richesse, mais nous avons affaire à une question de répartition de ces richesses-là.
Comment ça se fait que des partis de gauche, comme justement qui est au pouvoir, ne mettent pas en avant le point que vous soulignez ici ?
Eh bien, je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que la raison tient au fait qu'ils ont fait le choix de faire toujours davantage de concessions à la sphère financière et par-delà la sphère financière, qui est un euphémisme, aux détenteurs de capitaux, c'est-à-dire à ceux qui tirent, sinon la totalité de leurs revenus, du moins une bonne partie, voire l'essentiel de leurs revenus, de la détention et du rapport des capitaux qu'ils ont placés. Donc je crois que malheureusement, le silence qui est fait, voire les concessions qui sont faites aux dogmes libéraux, sur lesquels il faudrait introduire une dose de capitalisation, s'explique par l'absence de volonté gouvernementale d'ancrer une véritable politique en faveur des couches les plus modestes de la population. Donc les couches salariées, pour parler simplement. Alors il y a peut-être un dernier point à préciser. On nous dit qu'il ne faut certes pas supprimer le système actuel qu'on appelle par répartition, il faut simplement le compléter par un système par capitalisation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le long terme, les deux systèmes ne sont pas compatibles. Parce que si je recherche la meilleure rentabilité pour mon placement, et si tous ceux qui ont placé recherchent la meilleure rentabilité pour leur placement, ça ne peut être qu'au détriment de l'emploi et des salaires. Parce que lorsque la richesse produite augmente de 2 ou 3% par an, dans le meilleur des cas aujourd'hui, c'est 2 ou 3% par an, eh bien tous les revenus ne peuvent pas croître simultanément de plus de 2 ou 3%. Si le mien augmente de 5 ou 6% pendant que le revenu global n'augmente que de 3, eh bien ça veut dire que le vôtre va augmenter moins vite, voire même diminuer si mon augmentation est trop forte. Donc tous les revenus ne peuvent pas croître en même temps d'un taux plus élevé que le taux de croissance globale de la production. C'est pour ça que le partage équitable des gains de productivité est extrêmement important.
Et les fonds de pension à la française, les fonds de pension à la française, ça c'est la panacée, non ?
C'est une galéjade. C'est une galéjade parce que un fonds de pension à la française, d'abord ça n'a pas de sens. Le capital aujourd'hui n'a plus de nationalité. On nous dit qu'il y a 20% voire 30% du capital des entreprises françaises qui est possédé par des investisseurs étrangers. Mais on oublie de vous dire que la France exporte 4 fois plus de capitaux qu'elle n'importe. Donc les investissements étrangers d'origine française, entre guillemets, sont 4 fois plus importants que les investissements étrangers qui viennent se placer en France. Ce qui veut donc dire que les capitalistes français ont à l'extérieur exactement le même comportement que celui des capitalistes à l'extérieur. Et si on avait des fonds de pension à la française, d'abord il faudrait être très vérifié qu'effectivement on puisse leur accorder ce qualificatif, cette identité, ce qui est aujourd'hui avec la mondialisation de notre économie est impossible, est illusoire. Mais en plus, il faudrait se demander si un fonds de pension dit à la française aurait un comportement plus altruiste que les fonds de pension américains ou anglais ou de toute autre nationalité. Donc l'objectif du profit maximal ne doit pas être accolé à une nationalité. Cet objectif-là est au cœur du système économique capitaliste qui aujourd'hui gouverne le monde entier, ou quasiment le monde entier, et ça n'a rien à voir avec une couleur nationale.
Il y avait quelque chose que, comme d'ordinaire, je ne comprenais pas. J'avais toujours eu l'impression qu'il y avait comme une sorte de génération spontanée des sous dans les fonds de pension, et je ne voyais pas le lien entre l'argent placé dans les fonds de pension et qui allait faire des petits, et le fait qu'il y ait des gens qui travaillent ou pas. Voilà la réponse que m'a donnée Jean-Marie Arribet.
Eh bien, la question touche à un point essentiel, effectivement, parce que l'argent en lui-même n'engendre rien. Je mets une liasse de billets au milieu d'une pièce. Je ferme à double tour. Je reviens 6 mois après. Au mieux, l'argent y est toujours. Au mieux. Au pire, soit il s'est dévalorisé parce qu'entre-temps les prix ont peut-être un peu augmenté, donc son pouvoir d'achat à cette liasse de billets est moindre, et au pire vraiment, quelqu'un l'a pris. Bon. Donc si je mets une liasse de billets au milieu d'une pièce, je touche à rien, je m'en vais, je reviens, elle y est. Il n'y a rien de plus qui a été créé. Je mets une machine que j'ai achetée avec cette liasse de billets, donc un capital non plus financier, mais au sens physique du terme. Hein. Je mets une machine, un équipement. Je ferme à double tour. Je laisse et je m'en vais. Je reviens 6 mois après. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Rien de créé. Rien de créé. La machine, elle a pris la poussière. Elle est devenue obsolète. Elle a perdu une partie de sa propre valeur. Elle n'a rien engendré. Donc s'il y a des richesses qui sont engendrées, c'est parce que on va mettre en mouvement la machine. Il va y avoir un travail productif et il va être effectué grâce à elle. Pareil, si je mets la liasse de billets va me servir à acheter un équipement, à embaucher des salariés qui vont produire une richesse nouvelle, sur laquelle, effectivement, l'ensemble de la population, active et inactive, salariés ou détentrices du capital, va rémunérer et va donc vivre. Et effectivement, vous avez posé la question la plus importante, le capital ne se valorise que s'il y a intervention de la force de travail humaine. Sans celle-ci, le capital reste en l'état et perd sa propre valeur au fil du temps.
Mais alors, pourquoi choisir l'option des fonds de pension ? Qu'est-ce que ça va amener de plus ?
Alors, nouvelle question très intéressante, c'est qu'il y a un grand point commun entre les deux systèmes, les deux grands systèmes qui s'opposent pour financer les retraites, mais il y a une différence radicale. Mmh. La différence radicale est la suivante, c'est que le second système, celui par capitalisation, il introduit un ferment d'inégalité beaucoup plus important que le premier. Parce que ne pourront souscrire au plan de retraite par capitalisation que ceux qui disposent de revenus extrêmement importants ou suffisamment importants aujourd'hui. Donc les inégalités d'aujourd'hui, non seulement sont perpétuées dans le temps, mais elles sont aggravées. Elles sont aggravées par le fait que ceux qui disposent de revenus faibles, ou très faibles, à la limite très faibles, bon, consomment l'intégralité de leurs revenus modestes et donc ne peuvent pas épargner pour souscrire à ces plans de capitalisation. Mais le point commun, c'est que si moi j'ai des revenus suffisants pour souscrire à un plan de retraite, ce capital que je place ne grossira, ne s'accumulera dans le temps, que s'il y a quelque part dans le monde, et le quelque part dans le monde est très très important, on va y revenir, si quelqu'un ne travaille pas. Mmh. Alors pourquoi c'est important de dire quelque part dans le monde ? Parce qu'aujourd'hui le capital est mondialisé. Et donc, nous souscrivons à un plan de retraite ou si nous plaçons notre épargne aujourd'hui dans un organisme financier quelconque, parce que ce que je dis pour les plans de retraite peut être vrai pour les contrats d'assurance vie ou plus simplement pour l'achat d'actions ou d'obligations en bourse. Mmh. Donc si un placement est effectué aujourd'hui, le capital va aller se placer dans l'endroit où le gestionnaire de fonds le jugera le plus rentable. Et donc ensuite rapatriera les revenus vers... Et il y a tout un courant de pensée dont certains parmi ce courant se réclament même de la gauche qui osent nous dire aujourd'hui que les vieux pays industriels comme le nôtre doivent faire payer les retraites par les populations du tiers-monde qui ont en général une population plus jeune et qui est payé au lance-pierre.
Donc ils vont investir les fonds
alors,
dans les pays
différents. Il y a effectivement aujourd'hui un discours pour montrer que les vieux pays industriels, les habitants des vieux pays industriels, doivent aller placer leur argent dans les pays où la rentabilité sera plus élevée parce que les salaires y sont bien inférieurs. Donc là, il y a un risque non seulement d'aggravation des inégalités au sein des populations des pays riches, parce qu'il y a malheureusement même au sein de ces pays riches des fractions de la population et importantes, souvent encore très pauvres, non seulement il y a un risque d'aggravation de ces inégalités à l'intérieur des pays riches, mais il y a, pire peut-être, un risque d'aggravation des inégalités entre les pays riches et les pays pauvres, parce que les plus mal lotis de chez nous sont encore mieux lotis, si je peux dire, que les plus mal lotis d'ailleurs. Donc là, il y a un grave risque de rupture ou d'approfondissement, parce qu'elle existe déjà malheureusement, d'approfondissement de la rupture des solidarités dans le monde.
On a déjà fait une émission avec Gustave Massia, de sorte qu'on ne va pas forcément approfondir l'aspect pays du Sud. Mais il n'empêche que des libéraux, sans doute, on pourrait vous rétorquer que mais c'est très bien, parce que de toute façon, ça va quand même apporter des fonds aux pays du tiers-monde, donc assurer leur développement.
Alors, cela peut effectivement avoir une incidence positive sur le développement de certains pays, mais il faudra bien là aussi revenir au point de départ de notre raisonnement. Le développement qui sera accompli dans ces pays-là le fera parce qu'il rendra productif des habitants de ces pays-là, et non pas simplement par l'intervention et par l'arrivée de capitaux. Les capitaux, en reprenant l'image tout à l'heure de, qu'on enferme dans une pièce, je peux balader les capitaux partout dans le monde, s'il n'y a pas un travail productif qui est effectué à certains points de cette balade dans le monde, eh bien le capital ne se valorisera pas. Donc vouloir financer la protection sociale et les retraites en particulier de nos pays par des investissements dans les pays du tiers-monde, qui ont bien besoin de se développer, c'est contribuer à aggraver les handicaps dont ils souffrent au lieu de les atténuer. Parce que on a déjà un problème de dette qu'ils n'arrivent pas à rembourser et que nous, pays riches, en tout cas nos banques, ne veulent pas voir annulés. Et si en plus on met en place des processus financiers qui consistent à rapatrier une partie des revenus tirés de leur activité productive, les écarts de niveau de vie, les écarts de développement et de niveau de vie ne pourront pas se résorber.
C'était une rediffusion de l'émission du 16 avril, rediffusion qu'il me semblait important de faire dans la mesure où les retraites vont être un thème majeur des mois à venir. Vous pouvez retrouver désormais Jean-Marie Ribet dans un petit livre qu'il vient à peine de publier, qui sous ferveur de ma part s'appelle Le capitalisme sénile, petit livre qui reprend et développe les chroniques qu'il propose dans la revue Le Passant Ordinaire. Vous pouvez par ailleurs retrouver les textes de Jean-Marie Ribet sur le site d'Attac, attac.org, et en tapant Ribet, H-A-2-R-I-B-E-Y sur le moteur de recherche, vous verrez apparaître les textes qu'il a diffusés par ce canal. Vous pouvez nous écrire d'ailleurs en tapant www.aligrefm.org. À l'intérieur des programmes, vous trouverez une petite enveloppe marquée des souhaits des hommes. Je suis juste derrière et je n'hésiterai pas à vous répondre. Vous pouvez aussi, et c'est assez nouveau, écouter certaines des émissions de des souhaits des hommes. En particulier, normalement, sur le site, vous trouverez celle avec Yves Salès sur l'Europe. Voilà, c'est terminé pour des souhaits des hommes. On se retrouve la semaine prochaine, le mardi, de 17h à 17h30. Thank you.